France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Il aura duré une heure le discours sur l'état de l'Union de Donald Trump aux États-Unis. Il était face au Congrès américain et ce discours vient de se terminer. Le locataire de la Maison-Blanche a balayé de nombreux sujets, promettant par exemple d'éradiquer le VIH aux États-Unis d'ici 10 ans. Côté politique intérieure, Donald Trump a appelé démocrates et républicains au compromis sur un budget notamment. Il assure d'ailleurs que le mur à la frontière américano-mexicaine sera construit malgré les tensions politiques. Une barrière en métal et pas un simple mur en ciment, a-t-il déclaré. Pendant ce temps, justement, à la frontière côté Mexique, 1700 migrants sont en train de s'installer. Ils ont pour la plupart quitté le Honduras dans l'espoir d'entrer aux États-Unis. La ville de Piedra Negras au Mexique a mis en place des entrepôts pour les héberger. L'opposant Juan Guaido au Venezuela défie Nicolas Maduro. Reconnu président par intérim par une quarantaine de pays, Juan Guaido organise l'arrivée d'une aide humanitaire internationale, ce que refuse le président élu Nicolas Maduro. Justement ce matin, des militaires vénézuéliens ont bloqué un pont à la frontière avec la Colombie, et cela selon un député de l'opposition. C'est par ce pont que l'aide humanitaire devait passer. C'est une nouvelle étape dans la reconnaissance du génocide arménien. Emmanuel Macron, président français, fixe au 24 avril la journée commémorative. Le président l'a annoncé hier soir devant la communauté arménienne, un geste que les Arméniens de France attendaient avec impatience. L'Assemblée nationale a voté en faveur de la loi anti-casseurs, une issue prévisible. Ce qui l'est moins, en revanche, c'est l'abstention des députés de La République En Marche dans l'hémicycle. 50 abstentionnistes dans les rangs de la majorité. Ils critiquent toujours l'article 2 du projet de loi, un article qui autorise les préfets à prononcer des interdictions de manifester. Le texte doit maintenant être étudié par le Sénat. Et puis, eux n'ont pas boudé leur droit à manifester. Partout en France, hier, des dizaines de milliers de manifestants ont répondu à l'appel de la CGT. Pour la première fois, gilets jaunes et drapeaux rouges ont marché ensemble.
Rendez-vous cet été au Festival d'Aix avec France Musique. Le Requiem de Mozart, mis en scène par Romeo Castellucci, Tosca de Puccini par Christophe Honoré, Grandeur et décadence de la ville de Mahagoni de Kurt Weill par Ivo Vanov, Jakob Lenz de Wolfgang Ring par Andrea Brett et la création mondiale d'Adam Maor, Les Mille Endormis. France Musique, une radio de Radio France.
6h03 sur France Culture, nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Mercredi, c'est cinéma dans le réveil culturel avec aujourd'hui deux films français d'animation qui sortent en salle aujourd'hui. La cabane aux oiseaux de Célia Rivière présente avec nous au studio. Et les Ritournelles de la Chouette, qui regroupent 5 petits films d'animation, dont 2 sont réalisés par Anaïs Sorrentino, notre deuxième invitée, qui, elle, est à Lyon. Mais le duplex est déjà mis en place, n'est-ce pas? En fin d'émission, la chronique mensuelle de Michel Simon, qui ne va pas tarder à nous rejoindre. Le Réveil culturel est préparé par Corinne Amard, réalisé par Vincent Bouchard, avec aujourd'hui, à la prise de son, Marie le Peintre.
Le Réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Bonjour Célia Rivière.
Bonjour Toufik Hakem.
La cabane aux oiseaux. Alors, ce sont des petits films d'animation adaptés d'une série de livres pour la jeunesse. Je dirais même plus la cabane aux oiseaux. On voit les volatiles du livre s'animer, comme si les livres prenaient vie. Ça, c'est le concept même de ce programme.
Exactement. En fait, à l'origine, on a des livres qu'on a sélectionnés pour leur grande qualité, des livres qui nous ont transportés, qui nous ont beaucoup plu. Et on a eu envie de les adapter à l'écran pour donner aux enfants l'envie d'aller les lire. Alors, à l'origine, c'est un projet de série pour la télévision qu'on a décidé d'adapter pour le cinéma, pour en faire un objet filmique, une expérience cinématographique pour les enfants.
En regroupant quelques épisodes ou en retravaillant les épisodes?
En regroupant des épisodes et en y ajoutant des interludes de petits oiseaux qui prennent possession de la cabane pour aller picorer d'un livre à l'autre les histoires de ces ouvrages.
Alors, ce qui est très étonnant et très beau en même temps dans La cabane aux oiseaux, c'est que l'objet livre est très présent.
Absolument. Pour nous, c'était très important de montrer les livres physiquement, de voir ces livres qui s'ouvrent, les pages qui se tournent, les oiseaux comme autant de petits lecteurs de ces livres.
Les oiseaux qui vont nous faire voyager à travers le monde, bien sûr.
Exactement, bien sûr. Et pour que les enfants comprennent bien que ces histoires sont adaptées de livres et ne sont pas de simples adaptations cinématographiques.
Ce qui tombe bien parce que du coup, ça fait moins d'effets spéciaux, moins d'animation aussi.
En fait, non. Ça en fait plus, au contraire.
Ah, alors expliquez-nous, parce que des fois on a des images un peu fixes de livres en train de, des pages de livres en train de se tourner.
En fait, pas du tout, parce qu'on adapte réellement ces livres, donc les images sont animées et pour les respecter absolument au maximum, on fait un travail très très minutieux de travail des images des auteurs illustrateurs à l'origine qu'on anime en restituant très très précisément leur style. Donc ça nous demande beaucoup de travail en fait.
Et ça s'adresse aux enfants prioritairement.
Absolument, ça s'adresse aux enfants en priorité, même très petits, mais comme c'est un film vraiment qu'on juge de grande qualité, on espère que ça plaira aussi aux accompagnants de ces enfants, donc leurs parents, grands-parents, oncles et tantes, etc.
Que raconte La cabane aux oiseaux, Célia Rivière ?
La cabane aux oiseaux, en fait, donc c'est des petits oiseaux qui prennent possession d'une cabane, notamment un petit oiseau qui est en animation et qui se promène dans cette cabane qui est une vraie cabane. Et il va d'un livre à l'autre en cherchant peut-être un peu d'où il vient, qui il est. Et finalement, le dernier livre qu'il va parcourir, c'est le livre dont il est d'origine. Et c'est ce livre qui va permettre de le révéler à lui-même. En quelque
Après
sorte.
Avoir fait le tour du monde et des univers.
Exactement.
C'est ça le principe.
Exactement.
Viens avec moi, nous nous envolerons loin de la vilaine taupe. Nous irons jusqu'au pays où c'est toujours l'été. Viens, cher enfant qui m'a sauvé la vie. Et ainsi, l'hirondelle s'éleva haut dans les airs. L'hirondelle déposa Poucette sur l'un des larges pétales. Mais quelle surprise fut celle de la petite fille! Un petit homme était assis au milieu de la fleur. Ah, comme il est beau! C'était la plus belle jeune fille qu'il eût encore jamais vue. Aussi prit-il une couronne d'or et la plaça-t-il sur la tête de Poucette. Puis il lui demanda comment elle s'appelait et si elle voulait devenir sa femme. Alors Poucette dit « Oui, au charmant prince !» Quelle joie ce fut alors ! Et là-haut, la petite hirondelle chantait leur bonheur du mieux qu'elle le pouvait.
Ça, c'est un extrait de Poucette, un extrait de La cabane aux oiseaux, Célia Rivière.
Exactement, oui.
Alors, est-ce que c'est le texte du livre ou on peut changer un peu le texte quand on passe à l'adaptation au film d'animation ?
Ah non, nous, on a voulu être très très respectueux des ouvrages, donc on a respecté le texte absolument. Ça peut arriver qu'on ait fait quelques coupes, parfois pour des problèmes de longueur, simplement, de récit, mais on est très très fidèles, donc on a restitué, bien sûr, les mots des auteurs.
Ces livres sont sortis donc bien avant. Est-ce que vous avez repris les mêmes visuels, les mêmes dessinateurs pour ce film d'animation?
Alors, pour le film, bien sûr, en fait, pour chacun des livres qu'on a adaptés, on a gardé absolument exactement le style du livre d'origine. Donc, en fait, pour chaque petit épisode mis bout à bout, on a des univers complètement différents, très très variés. On n'a pas du tout cherché à lisser, en fait, le style de ces livres pour passer de l'un à l'autre. Au contraire, on est à chaque fois plongé dans un univers qui est très très différent, que ce soit par des techniques plastiques très différentes ou même des univers narratifs très variés.
Ça prend du temps de faire un film d'animation comme La cabane aux oiseaux.
Alors un film d'animation prend toujours beaucoup de temps et celui-là prend beaucoup de temps également parce que on y met beaucoup d'applications. Donc on y passe énormément de temps. De travail humain très minutieux.
Ça nécessite combien de personnes autour d'un projet comme celui de La cabane aux oiseaux ?
En tout et pour tout, on doit tourner autour d'une centaine de personnes, je pense. La partie animation pure technique, on est sur une équipe de 20-30 personnes qui sont dans la région d'Annecy. En fait, où l'animation est faite. Mmh. Toute la fabrication artistique, tout est entièrement fait en France, en fait, sur ce projet. Et on a les musiciens, on a les scénaristes, les storyboarders, on a aussi les designers graphiques qui adaptent, en fait, les images du livre techniquement, qui les découpent, en fait, très minutieusement pour que les animateurs puissent s'en emparer et animer les personnages. On a évidemment les comédiens qui prêtent leur voix à ces histoires. Donc qui sont des enfants d'ailleurs, donc qui sont encadrés aussi par des coachs, etc. Enfin, il y a vraiment énormément de personnes.
Et l'équation économique, est-ce que c'est ce cinéma qui a l'air prospère, puisque aujourd'hui il y a deux films d'animation produits en France qui sortent. Est-ce que vous traversez plutôt une période prospère, les films se vendent, sont vus, rapportent au moins l'argent qui a été nécessaire pour la production de ces films, ou est-ce que c'est toujours un genre qui est soutenu?
C'est toujours très difficile
et c'est soutenu
absolument par des aides du CNC, des régions. Il y a une aide publique qui est énorme en fait sur des projets comme ça, et les chaînes de télévision aussi qui investissent de l'argent. C'est un travail qui est très difficile, qui est pas du tout le mien pour le coup, qui est celui des producteurs, mais qui est ardu effectivement.
Alors, comment êtes-vous arrivé au cinéma d'animation?
Alors moi, j'ai fait l'école des Gobelins.
C'est à Rivière, donc oui. Vous êtes passé par les Gobelins.
Oui, j'ai fait l'école des Gobelins. À l'origine, je m'orientais vers le graphisme, les arts visuels, mais j'étais aussi très intéressée par la mise en scène. C'est quelque chose qui me plaisait beaucoup depuis toute petite. Je suis passionnée aussi de musique et tout ça mélangé, en fait, ça m'a amenée au dessin animé.
On va voir si c'est le même parcours pour Anaïs Sorrentino. Anaïs Sorrentino est une des réalisatrices des 5 films qu'on peut voir dans un projet qui sort au cinéma en film, hein, Les Retournelles de la Chouette. Bonjour Anaïs Sorrentino.
Bonjour.
Vous trouvez donc à Lyon. Est-ce que vous avez suivi un peu le même parcours que Célia Rivière? Vous avez choisi le cinéma d'animation très vite?
Oui, c'est-à-dire que j'ai su très tôt que je voulais faire du dessin, et donc après mon bac art appliqué, j'ai fait un DMA en cinéma d'animation.
Et après,
à Roubaix, voilà, c'est ça, donc qui s'est très bien passé en 2 ans. Et puis après, j'ai voulu continuer un peu et poursuivre sur la 3D parce que j'étais curieuse de voir comment c'était. Donc j'ai fait 2 autres années à Supinfocom. Donc maintenant,
très bon choix, parce que l'industrie du jeu vidéo se porte très bien, paraît-il.
Elle se portait bien, oui. C'est-à-dire que oui, en sortant d'école, donc là, pour le coup, je me suis orientée plus dans la 3D, donc dans l'animation de personnages. J'ai été animatrice pendant 7-10 ans, enfin pendant un moment. Et puis finalement, ça me manquait aussi le film d'animation. Donc j'ai rencontré Arnaud Demuynck, donc le producteur des films du Nord, et on a travaillé ensemble sur le programme Le Vent dans les Roseaux. Donc j'ai fait un premier court métrage qui s'appelait Dentelle et Dragon. Et ça s'est très bien passé, ça m'a beaucoup plu, et donc on continue de travailler ensemble régulièrement.
Eh bien, gros ours, que t'arrive-t-il?
Tu vois bien, ce gros caillou bouche ma grotte.
Je vais t'aider. Ensemble, nous y arriverons bien. 1, 2, 3...
Ouais, pousses-tu avec moi?
Bien sûr. N'as-tu pas senti la pierre bouger?
Oui, pas vraiment. N'as-tu pas un ami plus gros que toi pour nous aider?
D'accord, je vais chercher.
Et pour ce film, Les Retournelles de la Chouette, composé de 5 petits contes animés, vous avez réalisé les 2 premiers films, c'est-à-dire Un travail de fourmi et L'arbre à grosse voix.
Voilà, tout à fait. Donc il y a Un travail de fourmi qui lui aussi était une adaptation d'un livre, donc de livre de Zemanel et de Vanessa Gauthier, édité par Flammarion. Et puis le deuxième, L'arbre à grosse voix, par contre c'était un scénario original d'Arnaud qui était inspiré d'un conte. Et donc là, pour le coup, il n'y avait pas d'imagerie derrière, c'est tout inventé, on va dire.
Waouh, Ce tronc sera parfait pour m'abriter. Merci, vieil arbre. Burk, quelle est cette matière collante? Il y en a partout sur l'écorce. Il y a quelqu'un? Qui est là?
Tu ne me connais pas? Je suis celui qui fait peur au loup et qui écrase l'ours.
Hé, pourquoi cours-tu ainsi, petite souris? Il y a là-bas un arbre à grosses voix. Il fait peur au loup et écrabouille aussi l'ours.
Un arbre à grosses voix.
Allons donc, avec quoi tu viens? Va voir par toi-même si tu ne me crois pas.
Une souris veut se loger dans le tronc d'un vieil arbre quand celui-ci la menace d'une grosse voix. Bah alors la souris s'enfuit, elle croise, on vient d'entendre, un écureuil qui lui est d'abord sceptique, mais il va vivre la même expérience ainsi que le lapin, puis d'autres, jusqu'à arriver à la tortue qui, elle, ne s'en laissera pas compter. Anaïs Sorrentino, est-ce que ça s'adresse vraiment à la jeunesse? Est-ce que ce programme de film, c'est-à-dire les Rétournelles de la Chouette, est à la base une commande pour la télévision, ou c'est une création d'une boîte de production qu'il a proposée aux chaînes de télé?
Oui, donc à la base, c'était vraiment pour le cinéma. Alors après, il est possible qu'il sorte ensuite à la télévision, comme l'avaient fait les autres programmes, Le Vent dans les roseaux ou La Chouette entre veillée et sommeil. Mais à l'origine, donc, ce sont des courts-métrages qui sont fabriqués pour le cinéma, pour le public jeunesse.
Alors, c'est quoi l'idée de ce programme? Pourquoi La Chouette? Pourquoi les Rétournelles? Pourquoi ce schéma qui se répète en s'enrichissant à chaque fois de points de vue différents?
C'est justement pour apporter des nouveaux points de vue. Donc en fait, ça s'adresse aux enfants et donc c'est basé sur un schéma qui se répète, mais pas tout à fait. Qui s'enrichit à chaque fois avec le point de vue d'un personnage différent. Va y avoir, par exemple, dans un travail de fourmi, la petite fourmi, elle est très faible, mais elle va rencontrer le blaireau qui, lui, se sent malin, mais il n'est pas assez fort. Il va rencontrer le loup qui est plus fort et le bison qui est plus puissant, mais ils arriveront à rien. Tout seul, c'est tous ensemble avec toute la communauté d'amis de la petite fourmi qui vont réussir à faire quelque chose. Donc, on va induire plein de notions, la notion d'entraide, la notion d'humilité, de où est la place de chacun. Est-ce que vraiment on est à la place? Est-ce que vraiment
on a compris la morale de cette histoire, que l'union fait la force, que ce n'est pas parce qu'on est volumineux et fort comme un ours qu'on n'a pas la même perspicacité qu'une petite fourmi. Est-ce que ces histoires sont testées d'abord auprès d'un public?
Pas à ma connaissance. Alors certaines sont basées sur des contes, donc je pense qu'elles sont testées depuis des années. Mais sinon, il n'y a pas de test à proprement parler. Donc ça amène plein de pistes de réflexion pour les jeunes spectateurs. Et La Chouette, entre chaque court-métrage, va pouvoir parler avec eux de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils peuvent en penser. Et donc je pense que ça peut aussi amener une discussion avec les parents à la sortie du film. Voilà.
Les Rétournelles de la Chouette et La Cabane aux oiseaux qui sortent aujourd'hui. C'est quoi la différence d'ailleurs qu'il y a entre l'animation française et les autres films d'animation, que ce soit les États-Unis ou le Japon? Est-ce qu'il y a une spécificité?
Je pense qu'en France, en tout cas, il y a une grande variété de talents, en fait, qui sont...
Et très peu de moyens.
Et oui, peut-être qu'on peut dire ça. Je ne sais pas si on peut dire ça.
Ceci entraînant cela.
Peut-être.
Ouais.
Après, je sais qu'il y a aussi pas mal de Français qui s'exportent à l'étranger. Oui, c'est vrai qu'il y a une...
S'il fallait parler, par exemple, des Rétournelles de La Chouette, c'est un programme qui a plu, qui a été remarqué lors du Festival d'Annecy, puisque ça reste quand même le grand festival du film d'animation, et aussi le marché de ce genre très particulier de films. Anaïs Sorrentino, est-ce que vous vivez bien avec le film d'animation? On aura une idée de l'état de santé de ce genre.
Ah oui, si ça se passe bien. Ben moi ça va, du coup je suis très contente. Je peux, enfin ce qui me plaît beaucoup en fait, parce que moi c'est du petit format, on va dire. Je travaille presque toute seule sur la partie image. Ce qui me plaît beaucoup, c'est de pouvoir travailler de l'embryon de l'idée, en passant par le storyboard, la mise en image, le compositing. Après on va poser les voix, voir ce que ça donne avec la musique. Enfin c'est vraiment la création de.
Et pour ce petit film qui fait entre 6 et 7 minutes, ça vous prend combien de temps?
Oh, ça prend plusieurs mois. Ça prend de 4 à 6 mois. Ça dépend. Mais ça peut être long. Ça peut être très long. Et encore, moi, ce sont des marionnettes animées. Donc, c'est plus rapide, dirons-nous, que si c'était en animation traditionnelle. Parce que c'est comme des petits pantins animés. Donc, ça va un petit peu plus vite. Mais ça prend très longtemps. Très, très long.
Merci, Anaïs Sorrentino. Peut-être un dernier mot, Sylvia Rivière.
Un mot pour dire que La cabane aux oiseaux, c'est aussi une adaptation de la série La cabane à histoire qu'on retrouve à la fois sur la chaîne Public Canal+, mais aussi en DVD. Il y a des sorties DVD Arte Vidéo. Voilà, c'est un programme qui donne vraiment aux enfants l'envie de lire et qu'on recommande voilà très chaudement à tout le monde.
Et les deux films sortent aujourd'hui au cinéma. Merci d'être passé.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et on retrouve Michel Simon comme tous les mois. Bonjour Michel Simon.
Bonjour Toufik Hakem.
Rédacteur en chef du magazine Positif, entre autres. Dans un instant, ça va être votre chronique d'un chef-d'œuvre annoncé, c'est-à-dire le dernier film de François Ozon. Vous allez nous dire pourquoi vous adorez ce film qui a pour titre Grâce à Dieu, qui sort dans 2 semaines. Mais tout d'abord, puisqu'on a parlé du cinéma d'animation en France, et réalisé par des réalisateurs et réalisatrices, en l'occurrence aujourd'hui françaises. Est-ce que vous avez un choix de films d'animation qui vous ont marqué à titre personnel, Michel Simon?
D'abord, c'est vrai que j'ai toujours adoré le cinéma d'animation. Et d'ailleurs, j'appartiens à une génération où les critiques de cinéma allaient voir des films d'animation à Angers, à Tours, plus tard à Annecy. Ils faisaient pas la distinction. André Bazin, tous ces gens-là, Truffaut, Godard, ils allaient voir McLaren, ils allaient voir Lenlai, ils allaient voir... Ça faisait partie. Aujourd'hui, l'animation est malheureusement mis dans une sorte de voie de... Pas de garage, mais il y a des spécialistes de l'animation, c'est pas les critiques, disons, patentées. Et c'est triste. Alors, pour moi, l'animation, c'est énormément de chefs-d'œuvre, évidemment. Surtout qu'il y a plus d'audace, probablement, visuelle et d'audace esthétique dans les films d'animation que dans les films de prise de vue réelle. Je pense à, par exemple, Le Comte des Contes de Yuri Norstein, qui est un grand cinéaste russe, ou bien Les possibilités du dialogue de Svankmajer, qui est un metteur en scène tchèque, ou bien récemment La Tortue Rouge du Doc de Witt, un néerlandais. Voilà. Et puis
en France.
Et en France, il y a La Guyani, il y en a beaucoup, bien sûr, de très grands cinéastes d'animation.
En février, ce que vous nous conseillez, c'est de ne surtout pas rater le dernier film de François Ozon.
Oui, c'est probablement il a fait beaucoup de très bons films. C'est quelqu'un qui prend toujours des risques, qui se renouvelle en permanence, ce qui est important pour un artiste, je pense. Et d'ailleurs, il est le seul Français en compétition à Berlin, et Berlin a eu la très bonne idée de le sélectionner. Parce que c'est, évidemment, c'est une enquête, comme un film américain pourrait l'être, sur la pédophilie dans l'église de Lyon, célèbre, évidemment, il y a un procès en cours, etc. Donc,
d'où le titre, Grâce à Dieu.
Grâce à Dieu, voilà, c'est un mot d'un cardinal qui dit grâce à Dieu, je vous dis pas le détail, mais c'est assez choquant. Mais c'est pas un film anticlérical, c'est pas une charge ridicule, mais c'est une interrogation sur l'église, mais beaucoup plus que cela, c'est une peinture balzacienne de la société lyonnaise à travers trois personnages. Ce qui est original dans le film, c'est que d'habitude, il y a un protagoniste dans un film que l'on suit du début à la fin. Or là, il y a trois jeunes, pas si jeunes que ça, des gens qui ont été violés dans leur enfance et dans leur jeunesse et qui racontent chacun leur expérience à tour de rôle. C'est-à-dire qu'il y a trois protagonistes qui sont les héros principaux du film. C'est une enquête comme Sidney Lumet a pu en faire, ou bien Spotlight, on a vu récemment une enquête sur Boston et l'église à Boston. Donc c'est pas du tout, il n'y a pas de thèse. Mais ce qui le rend encore plus loin du film à thèse qu'on pourrait le croire, c'est justement cette peinture d'une société. Les mères par rapport à leurs fils, certaines mères ne veulent pas que leurs fils racontent ce passé. Les épouses par rapport à leurs maris, les enfants de ces victimes. Donc c'est une vraie peinture de société, de personnages qui sont effectivement des personnages réels, puisque c'est tiré d'une histoire vraie, comme on dit, mais en même temps fictionnisée, puisque c'est pas totalement la réalité, c'est pas un documentaire.
Grâce à Dieu, de François Ozon, qui fait
Il fera du bruit.
Oui. Et qui fera du bruit, et qui fait la couverture du dernier numéro de Positif, qui par ailleurs consacre une bonne partie de ses pages à Raoul Ruiz.
Voilà, alors ce qui est amusant, c'est qu'en couverture, il y a Melville Poupeau qui joue un des rôles principaux de Grâce à Dieu.
Et on sait fétiche.
Et on sait que Melville Poupeau, à 7 ans, était un comédien chez Raoul Ruiz. Il a joué dans 5 ou 6 films de Raoul Ruiz. Donc une sorte d'écho au film de Ozon. Donc c'est Vision et Merveille de Raoul Ruiz, avec des entretiens avec des gens qui ont travaillé avec lui, etc. Et puis, il y a un texte de John Boorman que j'ai retrouvé d'il y a 40 ans, où il raconte sa nuit aux Oscars, où il a failli avoir l'Oscar pour Hope and Glory, mais finalement...
Ah oui, ça va bientôt être la nuit des Oscars. En plus.
Voilà, oui, ça colle avec la nuit des Oscars, on essaye un peu d'être d'actualité. Et puis, il y a un très grand film chinois, parce que les Chinois sont en train de dominer l'actualité cinématographique. Avant Jia Zhangke et après Un éléphant sitting still, il y a ce film de Bigan qui était montré à Cannes, Un grand voyage vers la nuit, qui est un film stupéfiant. Et la Chine vraiment produit en ce moment des films impressionnants.
Merci beaucoup Michel Simon. Merci aussi à Sylvia Rivière, la réalisatrice de La cabane aux oiseaux, et à Anaïs Sorrentino qui était en duplex depuis Lyon pour nous parler des ritournelles de la chouette. Ces deux films d'animation, ces deux programmes d'animation sortent aujourd'hui au cinéma. Bonne journée, à demain. L'esprit d'ouverture.
France Culture et la Scala Paris présentent Des nouvelles de Maupassant, une lecture spectacle proposée par Marie-Louise Bischoff-Berger, réalisée par Cédric Aussire. Un écrivain dans une brasserie, à l'écoute des histoires intimes, tragiques ou cocasses, confiées par les uns et les autres au gré des conversations. Avec Marie-Sophie Ferdan, Jérôme Kircher, Lou Delage, Louis-Dodelanxin, Dominique Raymond. Des nouvelles de Maupassant, Lundi 11 février à 20h30 à la Scala Paris. Réservation 01 40 03 44 30 et sur franceculture.fr.
Chaque jour à midi, La Grande Table par Olivia Gesbert.
Toute l'actualité de la culture et des idées, à l'heure du déjeuner, des rencontres plaisir, des livres coup de cœur, des penseurs positifs et d'autres qui nous alertent. Je vous attends en direct ou en podcast sur franceculture.fr.
Il reprend, 10 ans après sa création et dans sa propre mise en scène, ce rôle impossible du savoureux personnage créé par Beckett dans Premier Amour, Samy Frey, ce mercredi dans La Grande Table. En seconde partie, ils sont toujours moins nombreux et plus précaires. Allons-nous vers une presse sans journaliste ? Avec Olivier Goujon, journaliste photoreporter. Ce mercredi dès midi et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. 50 abstentions chez les députés La République En Marche. La proposition de loi anti-casseurs s'est heurtée hier à une hostilité record dans la majorité. Le texte a tout de même été adopté. Réaction à suivre. Dans ce journal, retour aussi sur la manifestation d'hier à l'appel de la CGT. Des gilets jaunes ont grossi les rangs des cortèges, mais les désaccords persistent, vous l'entendrez. Et puis cette enquête de Radio France et Mediapart ce matin. Les services secrets français savaient qu'un génocide pouvait avoir lieu au Rwanda après la attentat contre le président rwandais en 1994. La loi anti-casseurs passe donc le cap de l'Assemblée nationale en première lecture. Le texte a été voté par les députés hier avec 387 voix pour, 92 contre, 74 abstentions. Les abstentions parmi lesquelles nous comptons 50 députés La République En Marche, c'est bien plus que la vingtaine d'abstentions attendues. Mais c'est voté, se félicite le député Les Républicains Éric Ciotti. La proposition, notons-le, venait de la droite sénatoriale. Éric Ciotti regrette seulement que le texte d'origine ait été remanié par l'Assemblée.
Je me réjouis de l'adoption de ces dispositions. Elles pourront être améliorées dans la navette parlementaire, mais en tout cas, nous disons clairement que la violence n'a pas sa place dans les manifestations et que depuis trop longtemps, le droit de manifester est dévoyé par la violence d'un groupuscule de casseurs qui désormais pourront être interdits de manifester et ne pourront plus manifester cagoulés pour commettre leur sinistre forfait.
Cette interdiction de manifester pourra en effet être prise par les préfets, une compétence qui était jusque-là réservée aux juges judiciaires. On se croit revenu sous le régime de Vichy, avait lancé dans l'hémicycle lors de l'examen du texte le député centriste Charles de Courson. Son groupe Liberté et Territoires a voté majoritairement contre la proposition de loi. Charles de Courson nous explique pourquoi ce texte, selon lui, est dangereux.
Ça veut dire que les préfets deviennent des juges. Mais où va-t-on ? C'est une variante de cette dérive qui consiste à donner à l'exécutif des pouvoirs qui appartiennent à l'autorité judiciaire. Et je rappelle que les préfets sont là pour maintenir l'ordre public, que les libertés publiques, elles sont défendues par l'autorité judiciaire et elle seule. Mais le risque, c'est qu'un jour, un gouvernement autoritaire dérive et qu'il l'utilise à tour de bras pour interdire à des milliers de gens de manifester. Voilà, c'est écrit noir sur blanc dans cette loi.
Dans cette loi, des propos recueillis par Rosalie Lafarge. Mais pendant ce temps hier, des manifestations justement avaient lieu un peu partout en France. Mobilisation aux communes entre certains syndicats, la CGT en tête, des partis politiques de gauche et des gilets jaunes. La CGT évoque 300 000 manifestants au total, 137 000 répond le ministère de l'Intérieur. À Bordeaux, le cortège hier s'est séparé en deux au milieu du parcours. D'un côté la CGT, de l'autre les gilets jaunes, suivis par certains syndicalistes, preuve des dissensions. Marie Vienneau a rencontré Gilles Lambersan de l'usine Ford de Blanquefort, menacé de fermeture. 850 salariés y travaillent. Ce représentant syndical CGT raconte sa déception.
Vous savez que les gilets jaunes font un peu ce qu'ils veulent. Et à un moment, ils ont décidé de prendre un autre parcours. Nous, on a fait le choix de suivre les gilets jaunes parce que c'est eux qui expriment au mieux les revendications communes aujourd'hui, quoi. Et malheureusement, la CGT, elle, a préféré suivre le parcours qu'elle avait décidé, déclaré. Et donc, il y a une séparation, ce qui est dommage, quoi. C'est ce que l'État souhaite, dans tous les cas. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut passer à autre chose, à être gentil et docile. Il y a un moment où ça serait bien de passer un cap. Et ce cap-là pourrait être passé avec les organisations syndicales. Ce cap-là, ça serait, pourquoi pas, aller jusqu'à la grève générale pour se faire entendre réellement, bloquer l'économie et obtenir satisfaction sur nos revendications, quoi. Sortir de ce train-train quotidien, quoi.
Vous pensez que c'est ça la difficulté des syndicats, là, en ce moment ?
Ben, complètement, quoi. Monsieur Macron claque des doigts, je vous invite à l'Elysée, on y court. Je vous écoute, mais je vous entends pas. Continuez à faire... Non, faut passer à autre chose.
Gilles Lambersan de Ford à Blanquefort en Gironde. Les syndicats ont un rendez-vous téléphonique par ailleurs aujourd'hui avec Bercy à propos de l'avenir de leur usine. Il n'y aura a priori pas de champion européen du rail. Alstom convoque un comité européen extraordinaire cet après-midi. Il devrait être question de la fusion entre le groupe français et l'allemand Siemens. Fusion que Bruxelles s'apprête à tuer dans l'œuf. Problème de concurrence, justifie la Commission européenne. Le rail et la SNCF en France qui veut investir dans le fret. Car si la moyenne européenne est de 18% aujourd'hui en France, le fret ne représente que 10% du trafic de marchandises. La moitié est détenue par la SNCF. Et pour doper ce trafic d'ici 11 ans, la SNCF a présenté hier sa stratégie à Kim Kasmi.
Pour tenter de doubler son trafic fret d'ici 2030, la SNCF va investir 100 millions d'euros sur 5 ans, améliorer la digitalisation et les sillons qui correspondent aux horaires de passage des trains et tenter de mieux se coordonner avec les opérateurs français et européens. Sylvie Charles, la directrice de la branche SNCF fret.
Le rail met sur le fer, y compris des camions, ce sont les autoroutes ferroviaires par exemple. Donc mettre les camions sur le ferroviaire, sur le grand parcours et laisser les camions faire la livraison terminale. L'avenir, il est quand même beaucoup là. Et dans le même temps, il faut qu'on continue à desservir très correctement les consommateurs plus traditionnels de ferroviaire que sont la chimie, la sidérurgie, les céréales, les granulats pour le BTP.
Des mesures insuffisantes pour Bruno Poncet, secrétaire fédéral de Sudrail, qui estime que le fret ferroviaire a beaucoup trop souffert ces dernières années d'un sous-investissement chronique face au dumping des transporteurs routiers, notamment d'Europe de l'Est.
Vous avez des conducteurs des pays de l'Est qui gagnent 300-400 euros pour travailler un mois sur le territoire français. Donc il y a une concurrence déloyale qui est en plus orchestrée quand même par des grosses boîtes françaises telles Geodis, qui est une filiale du groupe SNCF. Donc effectivement, aujourd'hui, la concurrence est déloyale et s'il n'y a pas une vraie volonté politique de faire du report modal, je ne vois pas comment on peut arriver à doubler le fret ferroviaire qui a quasiment baissé de moitié depuis 15 ans.
En attendant, le doublement du fret ferroviaire doit également permettre de réduire la pollution car le transport de marchandises produit chaque année 275 millions de tonnes de CO2 en Europe. Un chiffre qui pourrait augmenter de 80 millions de tonnes si rien n'est fait d'ici 10 ans.
Le mur à la frontière américano-mexicaine promis par Donald Trump sera construit. Le président américain l'a dit et répété lors de son discours sur l'état de l'Union cette nuit devant le Congrès américain. Donald Trump y a appelé les démocrates et les républicains à trouver par ailleurs un compromis. Il rencontrera, il l'a dit également, son homologue nord-coréen Kim Jong-un. Fin février, ce sera au Vietnam. Analyse de ce discours avec Julie Gacon et son invité dans les enjeux internationaux dans 5 grosses minutes à 6h45 sur France Culture. Avant cela, nous nous penchons sur une enquête. Il y a presque 25 ans, un attentat contre l'avion du président rwandais Habyarimana a déclenché le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Il y a eu 800 000 morts en 100 jours. Benoît Colomba nous révèle ce matin avec le site d'information Mediapart de nouveaux éléments sur le cerveau de ce génocide.
Il s'appelle Théoneste Bagosora. Cet ancien directeur de cabinet du ministre rwandais de la Défense est considéré comme l'un des architectes du génocide contre les Tutsis. Selon une note du 22 septembre 1994 de la DGSE, les services secrets français, une note jamais révélée jusqu'ici, le colonel Bagosora est désigné, avec un autre extrémiste Hutu, comme le principal commanditaire de l'attentat contre l'avion du président rwandais Habyarimana, l'étincelle du génocide en préparation. Des juges français enquêtent également sur 80 tonnes d'armes vendues illégalement en juin 1994 en plein génocide. Livraison d'armes à la demande, là encore, du colonel Bagosora. Selon nos informations, les juges ont reconstitué les circuits financiers de cet achat d'armes qui passe notamment par BNP Paribas. La banque ne fait aucun commentaire. Condamné à 35 ans de prison par le tribunal pénal international, Théoneste Bagosora est actuellement incarcéré au Mali, mais il a refusé de parler aux juges français.
Enquête complète à retrouver sur le site de France Culture. Lui n'est pas physiquement devant le tribunal correctionnel de Paris actuellement. Denis Baupin, ancien député écologiste, y poursuit pourtant des médias et des accusatrices pour diffamation. Des femmes qui l'ont accusé publiquement d'agression sexuelle, parmi elles Sandrine Rousseau, ancienne porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Antoine Maret a assisté hier à l'audience pour France Culture.
Comme d'autres accusatrices de Denis Baupin, Sandrine Rousseau a souffert du syndrome de l'imposteur. Cette économiste et militante associative n'entre chez Europe Écologie Les Verts qu'en 2009, Le parti cherche alors pour les européennes des personnalités issues de la société civile. Elle ne connaît pas bien la politique ni la culture du parti. Très rapidement, elle doit faire face aux textos dragueurs de camarades. « Quand on arrive chez les Verts, on est dragué », explique-t-elle. « J'ai installé un rapport de distance poli. Aucun homme n'a pensé qu'il y avait une ouverture possible, sauf Denis Baupin. » En novembre 2011, elle participe à un congrès d'Europe Écologie Les Verts à Montreuil. Selon elle, c'est à cette occasion que Denis Baupin l'agresse dans un couloir. « Il m'a plaqué contre le mur, il a mis ses mains sur mes seins et il a tenté de m'embrasser, je l'ai repoussé. » Un moment très furtif, mais qui laisse des traces. « Quand on touche les parties intimes d'une femme sans son consentement, on la considère comme un objet. Pour la première fois, je me suis senti comme un objet. » Pourquoi ne pas avoir immédiatement porté plainte, lui rétorque l'avocate Denis Baupin. Réponse de Sandrine Rousseau. Quand j'en ai parlé à des responsables du parti, ils m'ont dit « Ah, il a recommencé, ce sont des choses qui arrivent très souvent. » On la renvoie à l'idée qu'une plainte pourrait lui nuire. Elle ajoute des sanglots dans la voix « Je pense vraiment que les femmes doivent faire de la politique et qu'elles ne doivent jamais être agressées sexuellement. » Les applaudissements se font entendre dans la salle. Le président hausse le ton. « S'il vous plaît, pas de réaction !» Sandrine Rousseau conclut très émue. « Plusieurs femmes ont arrêté la politique à cause de ce type de comportement. »
La météo du jour très rapidement avec de la pluie à l'ouest, un grand soleil à l'est avec ce matin 0 degré à Besançon, mais déjà sous la pluie 5 à Lille, 9 à Bordeaux, 13 degrés à Perpignan. Il est 6h40 sur France Culture et quelques secondes en plus. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Vous êtes à mes côtés pour le journal des idées ce matin et vous revenez sur la prise de Barcelone par les troupes de Franco au début de l'année 39. Elle provoque l'exode vers la France d'un 500 000 de réfugiés. Ça s'appelle la retirada. C'était il y a 80 ans.
Oui, à la mi-janvier, le gouvernement républicain demande à la France d'accueillir 150 000 personnes. Face à l'afflux de 500 000 réfugiés, le gouvernement Daladier commence par fermer la frontière, puis la rouvre en deux temps. Le 28 janvier pour les civils, femmes et enfants essentiellement, et le 5 février pour les hommes en âge de porter des armes, soit presque jour pour jour, il y a 80 ans. Comme le rappelle l'historienne Geneviève Dreyfus-Armand dans L'Humanité, qui consacre un dossier à l'événement, cette vague sans précédent fait suite à d'autres exodes au fil des victoires franquistes et de leur lot de massacres. Dès l'été 36, lorsque tombe la région de Saint-Sébastien et d'Irun, côté Atlantique, puis en 1937, après la chute de Bilbao et d'Oviedo, où près de 120 000 personnes partent en exil, depuis l'Aragon également en 1938. Ces trois exodes représentent entre 160 000 et 170 000 personnes qui partent essentiellement vers la France. Au départ, sous le gouvernement du Front Populaire, l'accueil est organisé, les préfets ont des consignes et il y a une forte solidarité de la société, des associations, des syndicats et des comités d'entreprise. Mais l'une des premières mesures prises par le gouvernement Daladier, arrivé au pouvoir en avril 1938, est dirigée contre les étrangers et réfugiés, notamment l'assignation à résidence pour ceux qui n'ont pas trouvé de pays pour les accueillir. Et en novembre, un décret est promulgué pour que les étrangers indésirables soient internés dans des camps. En février 1939, comme rien n'a été prévu au moment de la retirada, nombreux sont ceux qui se retrouvent sur les plages d'Argelès ou de Saint-Cyprien, entourés de barbelés et de troupes coloniales. On construit des cabanes pour se protéger de la tramontane hivernale. Des camps disciplinaires sont également édifiés, comme à Collioures, Agde ou Gurs, dont Aragon dira « Gurs, une drôle de syllabe, comme un sanglot qui ne sort pas de la gorge ». Un an plus tard, en juin 1940, au cours de sa cavale depuis Paris à l'arrivée des troupes allemandes, Walter Benjamin retrouve sa sœur Dora qui vient de quitter le camp de Gurs. À Marseille, où il se rend pour régulariser en vin sa situation, il tombe sur Hannah Arendt, à qui il confie le manuscrit de ses thèses sur le concept d'histoire et ses envies de suicide, rapporte Mathieu Arnal dans la dernière livraison de la revue Gibraltar qui consacre un dossier aux voies de la liberté. Hannah Arendt et son compagnon, Heinrich Blücher. Il avait passé quelques jours pénibles avec eux en camp de transit suite au décret du 1er juillet 1939 qui les désigne comme sujet ennemi à l'instar de milliers d'immigrés allemands et autrichiens réfugiés à Paris. À partir de là, tout son parcours s'apparente à un chemin à rebours dans les traces et les décombres de l'histoire toute récente des réfugiés espagnols. Comme une figuration vivante de l'Angelus Novus, la de Paul Klee, qui lui inspire l'une de ses thèses. pèse sur le concept d'histoire. Un ange qui semble sur le point de s'éloigner de quelque chose qu'il fixe du regard. Je cite, « C'est à cela que doit ressembler l'ange de l'histoire. Son visage est tourné vers le passé. Là où nous apparaît une chaîne d'événements, il ne voit, lui, qu'une seule et unique catastrophe qui sans cesse amoncelle ruine sur ruine et les précipite à ses pieds. Il voudrait bien s'attarder, réveiller les morts et rassembler ce qui a été démembré, mais du paradis souffle une tempête qui s'est prise dans ses ailes si violemment que l'ange ne peut plus les refermer. Cette tempête le pousse irrésistiblement vers l'avenir auquel il tourne le dos, tandis que le monceau de ruines devant lui s'élève jusqu'au ciel. Cette tempête est ce que nous appelons le progrès. » La route inverse qui mène Walter Benjamin vers sa mort volontaire à Portbou est précisément celle qu'ont empruntée dans la montagne surplombant la mer les colonnes de réfugiés quelques mois auparavant, la route Lister, du nom du général communiste de l'armée républicaine qu'il a fait prendre à ses hommes lors de la retirada. Dans un ouvrage paru récemment à la petite bibliothèque Payot et qui rassemble le beau texte sur la tâche du traducteur ainsi que celui sur le conteur, Walter Benjamin est évoque dans « Expérience et pauvreté » le déclin de la valeur de l'expérience après le traumatisme de la Grande Guerre. Le mutisme des soldats revenus du front lui suggère que l'emballement d'une technique meurtrière a définitivement appauvri les gens en expérience communicable. Une génération qui était encore allée à l'école en tramway tiré par des chevaux s'est retrouvée à découvert dans un paysage où rien n'était épargné par le changement, au milieu d'un champ de force traversé de flux destructeurs et d'explosions. Et Walter Benjamin de conclure, nous sommes devenus pauvres, nous avons sacrifié bout après bout le patrimoine de l'humanité, souvent pour un centième de sa valeur. Nous avons dû le mettre en dépôt au Mont-de-Piété pour recevoir en échange la petite monnaie de l'actuel. 6h46, vous écoutez France Culture. Désolé, Julie Gacon.
Mais non, bonjour Jacques Munier.
J'ai quelques secondes de retard. On retrouve avec vous donc les enjeux internationaux. Au sommaire aujourd'hui, le discours de Trump, le discours sur l'état de division.
Oui, c'est toujours un moment assez délicieux, ne serait-ce qu'à observer le discours sur l'état de l'Union des présidents américains chaque année en janvier. Alors reporté à février, cette fois pour cause de shutdown. Donald Trump assis cette nuit devant le Congrès, devant plus de 500 élus, dont de nombreuses femmes démocrates qui portaient des vêtements blancs en hommage au centenaire du mouvement des suffragettes. Nancy Pelosi, impassible et grimaçante au-dessus de son épaule droite, expérience inédite pour le président américain que cette cohabitation avec la présidente démocrate de la Chambre des représentants élue lors des élections de mi-mandat. Bonjour Marie-Cécile Nave.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct ce matin. Vous êtes politologue, chercheuse à l'IRIS, spécialiste de politique américaine. Alors Donald Trump a-t-il pris acte cette nuit à la fois de la débâcle du Parti républicain, 40 sièges perdus à la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat, mais aussi de ce shutdown de 35 jours qui a tourné à sa défaveur? A-t-il fait acte cette nuit lors de son discours sur l'état de l'Union d'humilité?
D'humilité, non, ça lui ressemble pas et on s'y attendait pas. En revanche, je crois qu'il a pris acte de la difficulté dans laquelle il se trouve. Il n'arrive pas dans cette enceinte où il y a effectivement beaucoup de femmes. Nancy Pelosi derrière lui, qui l'a applaudi quand il a dit il faut en finir avec les prises en otage politiques.
C'est à peu près la seule fois où elle a réagi d'ailleurs. Ouais.
C'est un discours qui est placé sous le signe de l'appel au consensus partisan. D'une part, il a commencé presque par ça en disant qu'il allait présenter un agenda ni républicain ni démocrate, mais rassembleur sur différents sujets, la réforme des infrastructures, la baisse du prix des médicaments, la lutte contre le cancer des enfants, l'instauration d'un congé parental. Il a rappelé certains événements de la grandeur de l'Amérique et de son histoire, donc c'est un appel à l'unité nationale, mais ça c'est un classique de tous les présidents dans ce discours-là. Il a dit au début beaucoup de fois le mot « nous ». Nous avons créé beaucoup d'emplois. Le monde entier nous envie notre économie. Nous devons travailler ensemble, républicains et démocrates, pour arriver à assurer la sécurité de notre pays. Beaucoup de personal branding aussi, hein, d'auto-satisfecit sur la politique étrangère, l'emploi, l'économie, etc. Et puis après, on a une longue diatribe, comme prévu, sur le... très ultra-conservatrices, qui sont des appels du pied aux chrétiens, aux ultras, avec l'annonce du vote prochain, peut-être, ou en tout cas de mise sur l'agenda du Congrès d'une loi qui interdirait les avortements tardifs.
Alors ça, c'est une adresse à destination des ultra-conservateurs, oui, qui ont déjà de nombreuses victoires à leur actif dans plusieurs États républicains, des mesures anti-IVG qui parfois sont limites d'ailleurs par rapport aux libertés constitutionnelles.
Absolument.
Là-dessus, pas de quoi a priori rassembler les démocrates. Donc il a fait acte au départ de rassemblement, et d'ailleurs le sénateur démocrate Chuck Schumer avait ironisé avant le début du discours en disant que tous les ans, le président se réveille le jour du discours sur l'état de l'Union avec une soudaine envie d'unité, et que les 364 autres jours de l'année, le président passe son temps à diviser. Il a annoncé des mesures qui d'ores et déjà vont faire réagir les démocrates. Donc cette loi, en tout cas ce texte qu'il annonce sur l'avortement, qu'est-ce qu'il dit de nouveau par rapport à ce qu'il a dit d'habitude, ce qu'il a dit jusqu'à présent ?
Rien. Tous les enfants, je cite, hein, tous les enfants nés et à naître sont à l'image de Dieu. Il n'y a rien de plus beau qu'une femme qui tient un enfant dans ses bras, etc. Donc on est dans une rhétorique religieuse ultra qui est un appel à cette aile de son électorat dont il a besoin et qui est représentée beaucoup par Mike Pence, les évangélistes, etc. Et puis vous avez aussi un long moment sur la sécurité du pays en associant immigration à délinquance. Bon, ça non plus, c'est pas nouveau, mais ce passage est assez long en disant je vais construire le mur. Le mur ou une barrière.
Ou la barrière.
Non, mais ça sera quand même un mur, parce que les immigrés illégaux nous amènent beaucoup de problèmes pour l'emploi, pour la sécurité, pour la cohésion nationale. Ce sont les immigrés qui mettent en péril la cohésion nationale dont moi je suis le garant.
Donc il n'a pas du tout pris acte de ce shutdown dont il n'est pas sorti vainqueur, plutôt fragilisé. Un shutdown de 35 jours qui est plus suspendu que réglé d'ailleurs. Mais alors, à quoi on peut s'attendre à ce qu'un blocage à nouveau de l'administration survienne dans les prochains jours, puisqu'il laisse démocrates et républicains trouver un compromis d'ici au 15 février, autrement dit après-demain?
Oui, il n'arrive pas en position de force dans ces nouvelles négociations qui, effectivement, doivent apporter une solution, comme vous le disiez, d'ici le 15 février. Moi, je crois qu'il va être vraiment tiraillé. Non seulement d'ici le 15 février, mais jusqu'aux élections de 2020, entre l'appel à sa base électorale et donc ce qu'il sait faire le mieux, qui est vraiment la stratégie du clivage, la stratégie du chaos, en termes de sur le plan socio-économique, racial, de genre. Et puis, il va quand même être obligé de faire des compromis avec les démocrates sur certains sujets, peut-être sur les infrastructures publiques, peut-être sur la baisse du prix des médicaments, c'est pas impossible. Il a besoin d'aller séduire à nouveau les plus démunis. Les plus démunis qui votent, qui majoritairement ne votent pas, mais qui votent et qui, chez lesquels il avait fait une grosse percée en 2016, et notamment dans des États swing states qui ont rebasculé du côté démocrate au moment des midterms. Donc il est en position de fragilité par rapport à cet électorat qui, y compris chez les blancs, y compris chez les conservateurs, eh bien, lui font un petit peu moins confiance qu'il y a 2 ans. Donc peut-être des compromis sur des politiques sociales qui sont un peu plus égalitaires, mais quand même ça sera assez restreint, je pense.
Les électeurs américains mettent régulièrement le système de soins, le Medicare for All, en tête de leurs préoccupations. C'est peut-être une manière aussi pour Donald Trump de déjà se positionner face aux démocrates qui se sont montrés offensifs d'ores et déjà sur cette question ces dernières semaines à la faveur de la course à l'investiture pour les primaires. Il est déjà là-dedans.
Oui, c'est un président, comme je dis souvent, qui est toujours déjà en campagne. Et là, ça y est, on entre dans une nouvelle phase de pré-campagne électorale pour 2020. Les démocrates y sont entrés avec beaucoup de candidats à l'investiture. Il faut voir aussi qui il a en face de lui, c'est-à-dire le Parti démocrate n'est pas en ordre de bataille derrière un programme consensuel, derrière un candidat ou une candidate consensuelle. Il va devoir faire un choix entre un programme plutôt centriste et un programme plutôt à gauche. Et d'ailleurs, Trump a dit pendant son discours cette nuit que le socialisme c'était très mauvais, que ça avait divisé les nations dans toute l'histoire, et que c'était pas du tout en faveur des États-Unis que d'avoir un agenda socialiste.
Alors il a aussi annoncé cette mesure mesure contre laquelle personne ne peut s'opposer, qui est d'éradiquer le sida, d'éradiquer la transmission. Voilà, aux États-Unis seulement. Il n'a pas donné de précision sur le montant du budget non plus alloué à cette cause, alors qu'il a aussi fait fermer des centres de recherche, etc. Oui, il a parlé des États-Unis. Oui, il n'a pas parlé d'au-delà.
Non, éradiquer le sida aux États-Unis d'ici 10 ans, effectivement, on ne sait pas comment. C'est-à-dire en coupant les budgets de la recherche, en coupant aussi les budgets publics de la santé, et en allant, enfin, ça va très loin l'administration Trump dans la défiance vis-à-vis de la recherche. C'est pas que sur le climat, c'est aussi sur toutes les questions de société où on n'a plus le droit d'écrire le mot genre, par exemple, dans les textes officiels au ministère de la Santé et ailleurs. Donc, comment est-ce que ça va être uniquement de la recherche privée non régulée? Bon, personne n'y croit. Donc, on attend de voir qu'est-ce qu'il va mettre sur la table pour alimenter cet item de l'agenda.
Bon, pour conclure, pas non plus de quoi aplanir les tensions avec les démocrates dans tout ce qui a été dit cette nuit sur la politique étrangère des États-Unis. Donald Trump confirme, maintient notamment sa décision surprise de retirer les 2000 soldats américains déployés en Syrie.
Alors, ce qu'il a dit sur la politique étrangère est très très intéressant. Il s'y est attardé un long moment parce qu'il a été très prudent dans les formules, étant donné qu'il ne doit pas trop faire peur aux républicains. Il a été très évasif sur le retrait des troupes de Syrie, d'Afghanistan, sur la question de l'OTAN. Est-ce qu'on va renégocier l'OTAN? Peut-être, peut-être pas. C'est pas le meilleur traité. Est-ce qu'on va se retirer de l'OTAN, etc. Il est très très évasif, très très prudent, en faisant vraiment du Trump comme il sait faire, en disant on va le faire ou pas. On verra. Voilà, mais il le met sur la table, il est très prudent parce qu'il est en position de faiblesse sur la politique étrangère et militaire vis-à-vis des républicains.
Les grandes nations ne combattent pas dans des guerres sans fin, a-t-il dit, pour justifier le retrait de la Syrie. Et puis cette annonce aussi, Donald Trump va rencontrer Kim Jong-un en février au Vietnam. Il avait déjà serré la main du président nord-coréen en juin dernier. Il avait qualifié la rencontre de fantastique.
Donc on verra ce qu'il s'était rien passé après.
Et il s'était absolument rien passé. Merci beaucoup en tout cas Marie-Cécile Nave d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes politologue et chercheuse à l'IRIS.
Merci.
Bonne journée.
Au revoir.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
France Culture présente deux spectacles de Winter Family. Jérusalem, plomb durci et H2 Hébron. Le duo franco-israélien Winter Family propose une plongée visuelle et sonore dans la société israélienne et la ville d'Hébron. Deux performances pour questionner la colonisation israélienne et la vie des Palestiniens sous l'occupation militaire. Winter Family, du 6 au 16 février, à la Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis à Bobigny. Un partenariat France Culture.
Vous écoutez France Culture, il est 6h57. Bonjour Guillaume Merner.
Mais bonjour Julie Gacon, bonjour à tous.
Tout de suite les matins de France Culture qui commencent. Et pour votre humeur du jour, Guillaume Merner, je vous reconnais bien là, sociologue de la mode et des tendances, vous voulez nous entretenir du délicat sujet de la doudoune et de la gauche.
Et oui, c'est la couverture des Un Rock avec Raphaël Glucksmann. Et c'est lui qui m'a mis le logo à l'oreille. Alors sur cette couverture, on voit Julie, Raphaël Glucksmann, essayiste, fondateur du mouvement de gauche Place Publique. Il est armé d'un mégaphone. Et il est doté d'une parka doudoune, une doudoune bleu foncé. Alors rien de notable sur cette photo, car ce qui est notable, c'est ce qui n'y est pas, un petit logo sur la manche de cette doudoune, indiquant que cette doudoune est une Canada Goose, une marque canadienne, une marque onéreuse, puisque ce parka vaut à peu près 800 euros. Alors pourquoi les Un Rock ont-ils décidé d'effacer le logo? Est-ce pour des considérations esthétiques? Pour ne pas faire de pub à cette marque en couverture? Une hypothèse qui me paraît plutôt vraisemblable, puisque dans les pages internes du magazine, on retrouve Glucksmann avec sa doudoune, muni cette fois-ci de son logo. Les Un Rock ont-ils décidé de supprimer ce logo pour des raisons esthétiques comme ils l'expliquent donc, ou pour des raisons politiques, afin de ne pas nuire à la cohérence du mouvement? Sous-entendu, un vrai homme de gauche ne peut pas avoir de Canada Goose. Qu'est-ce qu'il peut porter? J'en sais rien, moi je lis, disons, une Célio par exemple, s'il est social-démocrate, ou bien carrément une Quechua, hein, s'il est NPA, la gageure consistant à trouver une doudoune sans marque, mais j'imagine que c'est beaucoup plus cher. Alors, ce n'est pas la première fois que la gauche est confrontée à la délicate question de la doudoune Canada Goose, puisque Raquel Garrido, de la France Insoumise, a elle aussi été photographiée en gilet jaune lors d'une manif, mais un gilet jaune porté sur une Canada Goose qui équivalait à peu près à lever le poing, avec à son poignet une Rolex. Cette histoire de doudoune témoigne d'une demande finalement aussi vieille que la gauche, de cohérence entre le mode de vie et des idées, aussi vieille par exemple que Paul Nizan, à qui l'on reprochait dans les années 30 d'être un communiste habillé comme un dandy. Mais cela témoigne aussi du formidable triomphe du logo, car au fond, rien ne distingue cette doudoune d'une autre doudoune s'il n'y avait pas ce logo, ce que Freud appelait le narcissisme des petites différences. Distinguer les choses par des détails qui révéleraient des abîmes. Qu'est-ce qui distingue deux doudounes? Comme se demandait l'autre, et la critique adressée à ceux qui les portent vaut finalement aussi pour les partis politiques. Qu'est-ce qui distingue deux partis?